Bonjour, je m'appelle Atina et aujourd'hui je vais vous parler de Léon. Léon, j'ai découvert environ vers 14-15 ans et c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que j'adore Jean Reno et ça me permettait aussi de voir un film pour les grands, en tout cas pour moi à cette époque-là. Ce que j'aime dans Léon, c'est que c'est un personnage complètement atypique, qui est hors des cadres, également par son métier, mais également par ses centres d'intérêt, le fait qu'il aime les plantes, le fait que ça soit un solitaire. C'est un personnage en marge, et généralement, c'est ce genre de personnage qui m'attache particulièrement. J'aime également la relation qu'il a avec l'héroïne. Je trouvais que ça changeait, c'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire, de libération. J'aime beaucoup la fin. Le fait que il lui offre sa plante et que ça lui permette d'être libre pour lui et pour elle.
À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
Bonjour et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on vous propose une émission hors série, juste avant de commencer un nouveau thème pour le mois de février, qui sera consacré au catch au cinéma. En attendant de combattre devant les écrans, dans les salles, on vous propose directement de parcourir l'actualité art et essais des dernières semaines avec la brigade cinéphile du Cinéma Les Carmes. On retrouve toute la troupe autour de la table dans le hall du cinéma pour vous parler des derniers films qui sont passés en salle, justement. Pour certains, vous avez encore une exploitation en salle, pour les autres il faudra surveiller les sorties en DVD, en VOD, parce que ce sont vraiment des films très importants, en tout cas qui ont marqué toute l'équipe de la brigade cette semaine. Deuxième partie, on part dans des avant-premières, on va découvrir notamment Rebecca qui est partie assister à des avant-premières dans le réseau Pathé sur Orléans, et puis vous avez également dans l'équipe de la brigade cinéphile des avant-premières art et essai suivies par Rose et Lucas. On vous conseille évidemment très chaudement ces films qui vont sortir courant janvier, fin janvier, début février, et qui aussi représente beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attente. Graffiti Cinéma, c'est parti. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, sur les réseaux Insta, Facebook et également sur Anchor, Spotify et Apple Podcasts pour suivre l'actualité de l'émission. N'hésitez pas à participer, à faire des retours ou voir pourquoi pas des propositions d'émission. On sera toujours ravis de répondre à tous vos messages.
Ok, settle.
Kimmy, yeah. How do you choose your roles?
I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made?
I thought you were taller. You look taller on television, but we're basically the same size.
Thank you for doing this.
Well, I want you to tell the story, right, don't I?
They're sweet, aren't they?
Donc là on a une actrice célèbre qui vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, dont la vie sentimentale en place flammée à place presse à scandale et passionnée le pays 20 ans plus tôt, donc un film de Todd Haynes assez intéressant. Alors vous êtes plusieurs à l'avoir vu aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce film là? Parce que moi je l'ai pas vu, hein. Donc clairement il va falloir me donner envie de le voir.
Du coup j'avais beaucoup d'attentes sur May December parce que déjà j'avais vu qu'il avait été super apprécié quand il était sorti aux États-Unis. Et il avait été acclamé par la critique, donc je m'attendais à quelque chose de vraiment bien. Et j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait. Plus le film avance, plus on est dedans. Et plus on a envie de connaître la suite. Et c'était. C'est assez addictif du point de vue des personnages en fait, parce que encore une fois, plus on avance et plus on les découvre et plus on se rend compte qu'ils n'étaient pas forcément ce à quoi on s'attendait et qu'ils sont plus complexes que ce qu'on pensait. Et de ce point de vue-là, du coup, c'était vraiment intéressant. Après, c'était pas un coup de cœur ultime, mais en fait, c'est assez étrange parce que j'ai pas non plus énormément aimé, mais j'ai trouvé ça hyper. Hyper réussi malgré tout. Voilà.
Effectivement, moi je suis un peu le point de vue d'Adèle. J'ai trouvé vraiment ça bien. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que Enfin, je sais pas, j'ai pas été non plus bouleversée, mais je trouve que à regarder, c'est très satisfaisant parce que, bah, comme le montre le résumé, on suit une actrice qui va prendre source dans le personnage de Gracie. Donc au début, on suit vraiment le point de vue de l'actrice, donc on ne connaît pas l'histoire, on connaît simplement les faits, et encore, moi j'ai été particulièrement choquée quand j'ai appris le contexte de l'histoire, je me suis dit « Ah, ok, on est dans ça !» et au final, on suit vraiment le point de vue et on en découvre à chaque instant, donc c'est sympa, et on a des moments où on change complètement de point de vue, on prend le point de vue de Joey ou de Gracie, et on découvre vraiment certains traumas, et on va essayer de comprendre si c'est réel ou pas. Il y a plein de questions qui se posent en tant que spectateur, et moi, ça a été vraiment un film où je me suis posé plein de questions, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà.
Je pensais que le casting, c'était peut-être le point le plus positif du film. Après, sinon, le film n'a pas tant... Parce que, au regard des premières critiques américaines, je m'attendais vraiment à quelque chose de un peu malsain, lancinant, subversif. Parce que le film n'était pas tellement, en fait, quand je l'ai regardé. C'était plus, je sais pas, fade, en fait, quand j'ai regardé le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, si on prend par exemple un film qui est sorti récemment, ça s'apparenterait peut-être un peu à Tar. Du point de vue de suivre un personnage qui est immoral, etc. Et un peu une descente dans la folie, mais c'est pas traité exactement de la même façon. Mais c'est juste que la musique, déjà, peut-être que c'est moi qui ai pas compris le film, mais j'ai trouvé qu'elle était utilisée un peu à tort et à travers. C'est-à-dire qu'avoir une musique, un leitmotiv comme ça qui revient souvent, ça peut être très enrichissant pour le film. Mais là, c'était un peu utilisé tout le temps, dans n'importe quelle situation, sans vraiment de but. Après, j'ai peut-être juste pas compris le film, hein. Libre à quiconque de me corriger, mais voilà. Et sinon, au niveau de la mise en scène, il y a certains plans qui sont assez beaux, certains effets de caméra qui sont plutôt efficaces, mais à part ça, j'en ai pas tiré vraiment grand chose. C'était moyen, voilà.
Bah, en fait, tu. Vraiment d'accord avec toi. J'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment, ce serait. Enfin, vraiment, je pourrais pas dire ça parce que. Enfin, il y a des prestations qui sont quand même vraiment bien, mais c'est vrai que c'est le genre de film où on en entend tellement parler partout que là, on se dit ça va être quelque chose. En plus, en regardant la bande-annonce, il y a vraiment cette impression qu'il y a un mystère qui plane. On nous donne pas beaucoup d'infos. Et moi, en fait, j'imaginais vraiment que le film allait monter crescendo. Et que plus ça allait aller vraiment... Enfin, qu'on allait découvrir des choses... horrible ou je ne sais pas, mais ça n'a pas forcément été le cas et je suis plutôt restée sur ma faim et j'ai trouvé ça dommage parce que par exemple j'ai trouvé que c'était pas forcément très assez exploité le truc de l'actrice qui essaye de se mettre dans le rôle de cette femme et qu'au final d'un autre côté le personnage de l'actrice il réussit à faire prendre conscience je sais plus son nom, c'est Joey, non ? À prendre conscience à Joey ce qu'il a vécu et que c'est des traumatismes. Mais en fait, je suis arrivée à la conclusion que même, elle n'était pas forcément essentielle à cette démarche-là. Enfin, c'est plutôt, ça arrive forcément dans... Enfin, Joey, il allait forcément se rendre compte au bout d'un moment dans sa vie que cette relation, elle n'est pas très saine. Elle est plutôt très, très bizarre. Mais ouais, je suis restée sur ma faim. J'ai pas réussi. Je suis sortie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en tirer ? Après, vraiment, il y a une scène qui m'a beaucoup plu, c'est le monologue de Natalie Portman. Ça, c'était vraiment incroyable. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, en fait.
Moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit parce que le film, il m'a relativement plu. Mais c'est vrai que, comme tu disais, au vu de la bande-annonce, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus crescendo et peut-être que le film il se perd parce qu'il y a plein de pistes qui ne sont pas forcément exploitées. Et donc, on a un peu cette impression de quelque chose qui se veut exploiter, bah oui, comme tu disais, un peu la folie, mais aussi un peu en même temps les traumas, la famille recomposée, etc. Et finalement, toutes ces pistes, elles ne sont peut-être pas assez développées Oui, voilà. Enfin, il y a pas le traitement, il est pas assez égal par rapport à tout ça. Et justement, ça fait qu'il y a un effet un peu de lenteur à certains moments qui est qui est pas forcément désagréable parce que moi j'ai trouvé que on entrait bien dans le film justement parce qu'il y a ce personnage de l'actrice qui arrive, qui elle est introduit, puis il y a les, puis il y a aussi ce mystère qui plane un peu autour de l'affaire pendant les premiers instants du film. Mais c'est vrai que le film il se regarde aussi un petit peu parce que comme enfin la musique aussi. Moi, j'étais un peu perturbé parce que, une des premières séquences dans la cuisine, là où elle regarde dans le frigo et puis il y a la musique, un énorme zoom comme ça, tout ça pour qu'en fait elle dise, on n'aura pas assez de hot dog. Et c'était, c'est vrai qu'il y avait un côté, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu trop dramatique parfois. Et c'est vrai qu'au vu de ce qui est, c'est vrai que ça laissait beaucoup plus d'attente que ça n'en a comblé. Voilà.
Ok. Alors, est-ce que vous connaissez le style camp? Parce que là, en regardant justement, en faisant les recherches, en vous écoutant, parce que vous parlez des exagérations, du côté un peu sirupeux, tout ça, apparemment il y a le style qui est recherché, donc le style camp. Alors je le découvre avec ce film là, en vous écoutant, je ne l'ai pas vu, je le précise. En fait, pour beaucoup d'historiens de l'art, c'est un style qui va reprendre le style de la culture des années 60, donc très vintage, très grotesque. On va revenir accentuer le côté des comédies dramatiques des années 60. Donc c'est aussi un regard qui est cherché, mais c'est vrai que là, on voit tout le malentendu que ça peut créer quand justement on n'est pas forcément sensible à ça et à cet exercice de style en tout cas. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, du coup vous l'avez ressenti évidemment parce que vous l'avez relevé, mais le fait de savoir que c'est un style à part entière et que c'est une œuvre aussi de stylisation d'aller chercher ça, qu'est-ce que vous pouvez aussi en penser par rapport à ce qu'on a dit?
Personnellement, c'est sûr, la musique, on se dit ça n'a pas été fait par hasard, c'est tellement présent que ça ne peut pas être un hasard, mais c'est vrai que le contraste est assez perturbant avec ce style un peu... du dramatique, alors qu'on, le film parle d'un sujet qui est pas à prendre à la légère tout de même, parce que ça parle d'une relation entre une femme de plus de 30 ans et un gamin de 13 ans, quoi. Donc moi ça m'a un peu sorti du film, mais je comprends la démarche artistique et que c'est aussi le style et qui est propre au film en fait, et c'est un peu son identité et c'est ok, mais perso ça m'a un peu sorti du coup.
Plus on en parle et en fait plus je me dis que je trouve que ce style justement il a la bonne place, parce que on parle de l'histoire qui s'est passée dans le film, mais je trouve qu'on donne une trop grosse place à cette histoire parce qu'au final c'est pas l'histoire du film. Ce film il est pas fait pour montrer une histoire de pédophilie. Ce film, il n'est pas du tout fait, je pense, pour l'histoire de la pédophilie, mais juste pour montrer l'impact que ça a sur l'image qu'on va redonner de nous à la société. Et je trouve que, justement, on suit Nathalie Portman, qui incarne cette actrice qui va prendre l'image de Gracie. Mais au final, je trouve que la vraie actrice qui joue un rôle d'acteur, au final, tout le long du film, c'est Gracie. Et je trouve que ce style, vraiment, à part entière, il a, au final, toute sa place ici, parce que la... Gracie, une personne au final ordinaire, joue ce rôle tout le long, et la musique au final, qui a un petit côté comique au début, montre que toute sa vie c'est un film au final, et on le dit dans le film, chaque jour elle incarne une autre vie, elle fait le ménage dans sa vie, elle passe à autre chose, donc je trouve, voilà.
Et oui, sur le jeu, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus intéressant du film, le jeu entre l'actrice et le personnage qui... où l'actrice se prend pour le personnage. Alors on sait pas si c'est conscient, et si par exemple il y a une scène dans le film où elle fait quelque chose où typiquement elle essaie de se mettre à la place de Gracie, et on sait pas si elle le conscientise ou si elle est un peu victime de ça, mais je trouve que ça a pas la subtilité et même l'esthétique très intéressante. Notamment il y a une scène devant le miroir, on dirait la scène de Mulholland Drive avec la perruque. Et donc ce jeu sur la double identité, il peut être intéressant, mais je trouve qu'il est pas... Il est exploité, mais vraiment de la façon la plus basique qui soit. Et voilà. Mais ça reste quand même l'aspect le plus intéressant du film. We'll be right back.
c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir.
Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante.
Bella.
Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé.
Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance.
Si on chantait...
L'horreur. La tristesse.
Bella !
Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien... Ce bon vieux monde est à nous, trésor.
J'en veux plus !
Non. Un de plus, ce serait en abuser.
Donc, il y a des choses à dire. Oui, il faudrait déjà que je m'en souvienne de ce que j'ai à dire.
Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps.
Alors, bon, c'est un film qui a l'air surprenant. Hein. On parlait de la bande-annonce, justement, des décalages que ça peut créer par rapport aux attentes en salle. La pauvre créature, bon, forcément, il est attendu, puisque c'est le film de Yorgos Lanthimos, donc qui a une vraie réputation le cinéma réessai. Et vous avez forcément cité en bon cinéphile les derniers films de sa filmographie. Mais surtout, bon, il y a un casting assez monstrueux. Hein. Emma Stone, alors, au bon sens du terme, hein, je dis monstrueux, les gens font pas peur non plus. Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo évidemment, ouais. En tête de gondole pour ce film donc Searchlight Pictures, qui est évidemment la branche dédiée au cinéma réessai de la Fox. Alors ici on a une comédie assez noire, assez sombre, assez peut-être burlesque, hein, vous allez nous en parler, et c'est vrai que Yorgos Lanthimos, il a vraiment un style à part entière qui a vraiment détonné depuis quelques années, hein, dans le cinéma réessai. Vous êtes plusieurs, je pense, à avoir vu d'autres films de lui notamment, hein, on bondira sur sa filmo. Comment ça commence pour on peut commencer en tout cas à parler de pauvres créatures.
La question, c'est comment ça commence ?
Non. Comment vous voulez commencer à parler de ce film-là ? Quelle est la meilleure porte d'entrée pour en parler ? Dur, hein ?
Dur. La porte d'entrée pour en parler.
Ouais, c'est une expression de journaliste. J'ai appris ça sur Internet. Non, mais vas-y, c'est comme au McDo, comme tu aimes.
Du coup, moi, j'ai toute la filmo de long métrage et quelques courts métrages. Du coup, j'étais pas choqué par la bizarrerie de Yorgos Lanthimos. D'ailleurs, c'est Yorgo, y a pas le S. C'est Yorgo Lanthimos. Non, c'est Emma Stone qui a, petite anecdote, qui a dit ça. Du coup, on dit pas le S. C'est Yorgo Lanthimos. Et du réalisateur. Et c'est, même si c'est un style totalement différent graphiquement et esthétiquement, ça reste dans sa bizarrerie créative. C'est pas lui qui a écrit le scénario, mais on voit qu'il y a une patte qui est similaire. Voilà, après dans, je sais pas ce que je peux dire à part que j'ai adoré. Dans le point négatif serait plutôt le rythme qui est assez dissonant. À certains moments on a l'impression que tout passe très très vite et à certains moments tout passe très très lentement, parce que c'est 2h20 il me semble. Y a des moments qui sont en même temps une éternité et en même temps des moments qui sont trop rapides presque. Après c'est pas forcément dérangeant, c'est dans le film, mais ouais, il y a une cassure qui est jamais tout, enfin il y a un rythme qui est jamais toujours très net, et mais sinon c'est une expérience qui est assez dingue. Emma Stone, elle mérite tous les prix qu'elle est en train de rafler. Il a bien fait de la garder après La Favorite, qui était dans lequel elle était déjà assez impressionnante. Voilà de ce que j'ai à dire sur ce film.
Ok, du coup, bah, pour moi, c'est le premier film du réalisateur que je voyais. Du coup, je connaissais pas du tout son style. Et j'étais hyper intriguée parce que, ouais, c'est hyper loufoque. Enfin, moi, je trouve ça très original vu que je connaissais pas du tout. Voilà, enfin, vraiment, le film, il a une identité visuelle qui est hyper intéressante et que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'en plus j'ai un peu l'habitude de voir des pièces de théâtre et là j'ai envie de faire un petit lien parce que je trouve que c'est le genre de truc un peu bizarre que vraiment j'ai un peu l'habitude de voir en spectacle vivant, donc j'ai trouvé ça cool de retrouver cette expérience au cinéma. Après au niveau du scénario, Je sais pas si j'ai aimé ou pas, parce que en fait, c'est en tant que femme, ce film, c'est comment un peu comment on imagine Frankenstein si ça avait été une femme en fait, et c'est un peu, enfin moi ça m'a touchée, j'ai trouvé ça un peu dur à voir parce que c'est un peu toute la violence du monde patriarcal en fait, où elle est vraiment considérée comme un objet. D'ailleurs, je trouve que le titre français est un peu nul parce que créature, c'est trop vivant encore, parce qu'en anglais c'est poor things, donc c'est vraiment une pauvre chose quoi, et c'est vraiment ce qu'elle est, comment elle est considérée par tous les hommes en fait, et même ça pose des questions, enfin c'est très bizarre, ces hommes qui veulent la marier alors que en fait le personnage, c'est une femme adulte, sauf qu'elle a un cerveau de petite fille. Donc c'est très malsain. Enfin, c'est plutôt sur ça que ça m'a gênée, pas forcément sur ce qui se passe, les actions des personnages, mais surtout ce contexte-là qui est assez perturbant, même en tant que femme, de voir ça représenté.
Alors, il y a 10 minutes d'ovation à la Mostra de Venise où il prend le Lion d'Or, hein, le film. Bon, là, évidemment, il y a au Golden Globes, il y a beaucoup de prix, hein, comme tu nous disais, Lucas. Meilleur film musical comédie, meilleure actrice pour Emma Stone. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément à avoir un regard sur ce film avec les Oscars qui s'annoncent. C'est quand d'ailleurs, les Oscars en mars ? Je ne m'en rappelle plus. Et c'est vrai que pour le coup, on voit qu'il y a beaucoup de matière, notamment sur ce traitement-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Barbie quand tu me parlais du film. Je me dis peut-être que là, on a le film qui va vraiment traiter le sujet.
Non, je voulais revenir justement sur Barbie, il y a eu une vidéo sortie sur écran large d'un journaliste qui revient sur est-ce que ça n'aurait pas été la vraie bonne version entre guillemets de Barbie, du vrai message d'émancipation qui a mieux été tourné que Barbie. Je trouve que là, ce message d'émancipation est beaucoup plus important et beaucoup mieux formulé, parce que pour revenir sur ce que je disais, c'est quand même l'enfant, enfin le cerveau d'un enfant qui est remis dans ce corps de femme. Donc il y a toute une découverte qui est peut-être un peu accélérée, faut pas se mentir, mais qui est super quand même super intéressante, cette question d'émancipation et de passage. Peut-être du coup trop rapide entre directement la naissance, l'enfance, l'adolescence et l'adulte, mais qui est quand même mieux fait, je trouve.
Ouais, non, c'est vrai que pour Barbie, puisqu'on analyse les prix forcément dans les nominations, mais Barbie, ce qui est symptomatique, c'est qu'il y a beaucoup de nominations d'Oscar, mais il n'y a pas l'actrice ni la réalisatrice. Et donc évidemment, ça commence à goiser en disant que ce film, justement, au niveau de ce qu'on voit, il a peut-être loupé une partie du sujet. Et justement, quand tu parlais de patriarcat, ça m'a tout de suite fait penser, je me dis tiens, il y a peut-être un film miroir qui est très intéressant à voir, justement. On te laisse remonter. Tu as vu Barbie ?
Oui.
Ah bon, c'est bon alors. Tu vas pouvoir nous faire nos parallèles.
Alors, faut que je parallèle maintenant.
Non, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, c'était juste pour t'embêter.
Alors, moi aussi, c'était une première fois avec le cinéma de Yorgo. Le cinéma de Yorgo. Et j'ai pas été trop transcendé par le film, ça m'a pas marqué. D'ailleurs, je me rappelle pas forcément entièrement maintenant, à part des décors qui étaient vraiment. Enfin, moi qui m'ont marqué et qui donc là font que je m'en rappelle. Mais sinon, pour en revenir au titre toi tu parlais du titre et il est au pluriel le titre. Et justement, enfin, je me demandais si il se réfère à elle en tant que personnage qui évolue comme ça dans un monde où elle apparaît un peu comme innocente, etc. Ou plutôt au personnage qui l'entoure. Et du coup, à ce monde d'hommes. Sur lesquels elle va poser un regard critique et nous amener justement à voir avec ses yeux, pas forcément ses yeux, mais à regarder le monde avec du recul. Et justement, je pense que c'est intéressant ce pauvre créature au pluriel, parce qu'il peut autant désigner les femmes en général que finalement la société patriarcale et la société des hommes en général.
Et pour revenir sur ça peut être aussi ce que tu as dit, et aussi bien le bébé plus elle. Je pense que c'est aussi intéressant parce qu'il y a ce parallèle là de pas juste Emma Stone, mais Emma Stone, Bella Baxter, plus le bébé qui est dans sa tête, qu'elle a perdu. Il y a pour ce pluriel là ouais, il y a des gestes mais qu'on voit pas, mais c'est pas grave. Mais ce parallèle-là de pluriel, je pense qu'il peut être aussi lié à ça.
Ouais, bon, en fait, on voit les grilles de lecture. Après, le conte philosophique ou un Candide regarde nos sociétés, c'est passé au type avec Voltaire. Hein. Je pense que les croisés au bac de français, peut-être, pas encore, non? C'est déjà passé. Candide, le vieux conte philosophique, c'est vrai que c'est un exercice de style qui est très fréquemment travaillé. Frankenstein l'était lui-même, puisqu'il y a forcément des racines quand on voit c'est la bande-annonce de Pauvres créatures. Et on voit en tout cas que ça va convoquer énormément de références et ça va être source évidemment de réflexion au bon sens du terme. Alors on va te laisser le mot de la fin, parce que c'est vrai que pour le coup, là, moi, j'ai jamais vu de film de Yorgo. Chaque fois que j'ai vu des extraits du bon Yorgo, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ça me fait mal au crâne. Mais en tout cas, ça me donne très envie de le voir, parce que on voit justement plus la réponse inconsciente à un des grands films événements de l'année 2023, qui est assez intéressante en tout cas.
Bah, du coup, moi non plus, j'ai jamais vu de film de Yorgo là.
On rêvait cette nuit.
Donc du coup, pour revenir à la bande-annonce de tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a vu énormément de fois, et la musique et tout, on en avait marre à la fin. Et au final, bah, le film, il m'a énormément plu. J'aimais tous les sujets traités. Il y en a eu beaucoup et je trouve qu'ils étaient très bien placés. Et j'ai beaucoup aimé l'univers du réalisateur, du coup. C'était magnifique, les tenues. Vraiment, tout était incroyable. Et en fait, c'était très intéressant de voir justement le cerveau de la femme. En fait, j'ai rien à dire. Juste, j'ai vraiment apprécié et... Voilà.
C'est un très bon bout de la fin.
Je conseille.
Toi, tu m'annonces ça comme ça, tu veux me quitter? Et quoi, ce plus quand tu n'y a que l'usine? Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Mmh. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Mais quoi?
Oh putain, t'as vu l'heure?
Quoi?
Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Fais-moi bosser mon sexe en supplie. Water!
Attendez,
Water!
Pardon!
Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je change pas une ligne du scénario.
Ça représente combien votre apport?
1 million d'euros.
Tu dois rejoindre les producteurs au resto.
Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gastro avec 2 têtes de cul.
Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier?
Non. Carrément, à fond.
Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule.
T'es obligé de crier tout le temps?
Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison 1000 fois.
Le principal financier du film nous a lâchés.
Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé.
Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe? Bah, tu dis rien, tu fais, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes.
Ton film, comment ça va?
Bah, les techniciens sont énervés.
Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te
prie. Pardon? Arrêtez-le!
Les acteurs font n'importe quoi.
T'es peut-être une grande vedette! Bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute!
Que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive.
Eh hey, mais il pleut les gars, il pleut.
Putain mais vous faites tout chier.
Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul.
T'as trouvé un repreneur?
Non, pas encore, pourquoi? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar.
Du Qatar? Mais c'est quoi cette histoire encore?
C'est vrai cette fois-ci.
Attends, comment ça? C'était pas vrai l'autre?
Du coup, Making of, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Mais en fait, on l'a beaucoup dit avec mon frère et Djoko, c'est Djoko, quoi. C'est toujours la même chose. Et j'ai rigolé, mais dans l'ensemble, c'était pas foufou, quoi. Mais ça va, j'ai quand même passé un bon moment. C'était intéressant de voir les revers et tout, même si c'était pas forcément toujours réaliste, puisqu'on voit peu les techniciens. Dans les films, enfin comme c'est comme voilà sur le tournage, comme c'est une mise en abîme, et là du coup on les a pas trop vus, mais voilà.
Moi pour le coup j'ai pas passé un bon moment en fait. Déjà il dure 2 heures pour une comédie, ça commence à faire long. 1h55 très précisément, ou 54 très précisément. Jonathan Cohen commence à m'agacer. ça va faire la même chose que Pierre Niney. On en parlait du coup dans le livre des solutions, je crois. Je commence à overdose. Il me fait pas très rire, enfin plus très rire. Je pense que ça commence à faire trop. On le voit trop. Je sais pas si on va parler de Dali, mais avec Pio Marmaille, c'est pareil. Ça commence à faire trop. D'ailleurs, il est aussi dans Dali. Voilà, on le voit un peu trop partout. Et pour le film, moi, pareil, ça m'a pas fait rire, en fait. J'ai passé 2 heures à enfin à regarder un film qui me faisait pas rire, qui tournait un peu en... Si, le seul qui m'a fait rire, c'est Denis Podalydès, mais lui, il enfin pour du coup l'énergie fonctionne bien avec lui à l'écran, mais sinon ouais, c'est deux heures un peu gâchées, un peu ratées. Je trouve que c'est pas réussi et ça rend, ça touche pas enfin le but visé, je trouve. Donc c'est grosse déception, ouais.
Ouais, bah je suis un peu d'accord avec ce que vous avez dit. Ça se regarde, mais c'est pas un film qu'on va forcément retenir. Et moi j'étais, en fait, bah là pour le coup j'avais vu pas grand chose en image du film. Je savais pas trop de quoi ça allait parler, à part que il y aurait une mise en abîme du cinéma et que ça pouvait être intéressant d'exploiter ça. C'est toujours très cool. Mais voilà, en fait le film il finit par faire une romance un peu cliché qui sert pas à grand chose.
En fait, ouais, c'est super cliché.
Voilà, c'est ça.
De tout le temps. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est caricatural? Mais en fait, non, c'est très sérieux. Et du coup, c'est trop cliché. C'est...
Ouais, tout
ça
est.
Ça passe à côté, quoi.
Enfin, c'est un peu magique. Le gars, c'est personne. Il donne son scénario. Le mec, il a besoin d'un gars pour faire le making-of. Il le prend. Et puis, enfin, je raconte un peu, mais il finit par tomber amoureux de la première actrice. Enfin, bon, voilà, comment c'est un peu.
Ça ressemble plus à un contrat qu'il a fait sans y mettre beaucoup ouais. De choses à lui. Enfin, quand on prend le procès Goldman, qui était super bien écrit, bon, c'était écrit avec. Il y avait plus de matière. Et je voulais aussi parler de Stéphane Crépon, qui est lui, bah, du coup, son rôle est un peu gâché, mais c'est celui qui fait le making-of, du coup, qui potentiellement peut devenir super, super important et super cool comme acteur, qui était génial dans Le Bureau des légendes. La série, donc j'espère qu'il aura de meilleurs rôles à l'avenir, parce que là c'était un peu dommage d'être dans ce rôle là cliché. Du coup,
vous aviez vu d'autres films sur les coulisses du cinéma? Bon, après il y avait forcément il y a Truffaut avec Une nuit américaine. Vous avez coupé il y a pas longtemps avec Azanavicius.
Ouais.
Ça vous a donné des regards sur des coulisses du cinéma, des films en tout cas qui cassent le quatrième mur?
Pour le coup, coupé moi m'avait beaucoup plus fait rire. Il avait, je sais pas s'il avait beaucoup marché, je crois pas tellement. Moi, il avait assez bien marché sur moi. On va savoir pourquoi, mais.
Ouais, non, bah c'est vrai qu'en fait, on voit des avis assez tranchés. Je regardais en même temps que vous m'en parliez. Et il n'y a pas de juste milieu là. C'est vrai, où on trouve que c'est un grand film de série Cannes avec des personnages très fins. Et puis il y en a qui ont trouvé que c'est d'une banalité absolue, comme vous disiez, au niveau des clichés. Donc vous êtes plutôt dans la deuxième partie. Et en tout cas, oui, on voit que pour le coup, ce côté-là, il est assez casse-gueule en fait. Hein, pour des tournages comme ça, il y a aussi le côté, la difficulté, je pense, c'est qu'il tombe tout de suite après le procès Goldman, qui est très écrit, très fouillé, avec une matière historique assez importante, de passer à un film qui est assez proche de l'exercice de style ici aussi. La transition n'est pas forcément facile à deux ans, à un an d'intervalle même de sortie. Il sort deux films coup sur coup là.
Oui, du ouais. coup c'est, ah. c'est en ouais, quelques exactement. Mois. Ouais.
Ouais, donc ça c'est aussi les écueils de la distribution post-Covid.
Cédric Kahn est réputé pour avoir réalisé des films extrêmement différents dans leur soit quelque chose de très très procès Goldman, soit quelque chose de très très making of. Hein, donc après j'ai pas lu ni entendu de choses autour de la production, ou est-ce que je sais pas, il avait eu deux scénarios qu'il avait écrit en parallèle ou quoi, j'en ai aucune idée. Après en termes de distribution, pareil, je sais pas. C'est vrai que c'est 3 mois de temps et sur des choses complètement différentes. C'est vrai que c'est très bizarre de voir les deux affiches, quoi. Juste l'affiche du procès Goldman à côté de celle de Making of, c'est lunaire. On dirait vraiment que c'est pas la même personne derrière, quoi. Donc c'est très troublant. That is the daisy grind. Taught to battle with my fists as much as my mind. So if you hear, you know, we got more drama than HBO. And fuck front row seats where the show. So step into the scene if you're ready to go. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Show us what you got. Are you ready now? Show us what you got. Yeah.
the cure of his needs. I beat the disease, came out swinging from the belly of the beast. Gonna bridge the gap between west and east, north and south, man, ain't no doubt. Gonna give him a war like never before. Hearts full of love saying fuck you fool. I'm dividing the sand.
Inyon. It means providence or fate.
Donc on a un coup de cœur là sur un film qui est plus en salle, mais qu'on va suivre attentivement pour les sorties DVD, VOD, et c'est Past Live. Et oui. C'est vrai que celui-là, il est très réputé, parce que déjà il est vraiment très cité dans les prix, les récompenses, Golden Globe, César évidemment également. Donc on va vraiment t'écouter là-dessus, parce que c'est un film, si jamais vous n'avez pas eu la chance de le voir en salle, il faut absolument le surveiller pour les prochaines sorties numériques, on va dire.
Oui. Alors bonjour, bah du coup je vais vous parler de Past Live, ce qui est un film de Céline Song, donc un film coréen il me semble. Alors j'ai beaucoup aimé parce que, bah déjà par rapport au thème, parce que en fait je trouve qu'il y a peu de films qui parlent des âmes sœurs ou un peu du destin, etc., d'une manière peu cliché. Et j'ai trouvé que ce film, il était très surprenant dans cette manière d'aborder ce sujet. Après, au niveau de l'image, j'ai énormément aimé parce que, bah, je pense que vous l'avez remarqué, il y a une colorimétrie qui est super belle, un peu granulée, avec des tons pastels et qui fait vraiment comme une atmosphère très calme, comme une apesanteur dans le film. Et je trouvais ça très beau, avec le son du coup qui va avec, parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de musique pour accompagner les dialogues qui sont très fins. Enfin, les dialogues sont très travaillés, il n'y en a pas énormément aussi. Et en fait, aussi, du coup, une petite anecdote, quand j'étais à la séance, lorsque le film s'est terminé, il y a une femme devant moi, elle était avec quelqu'un, elle a dit à la personne, ah, c'est dommage, il n'y avait pas beaucoup de musique et tout. Mais en fait, moi, j'ai trouvé, justement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'était un peu ce qui était propre au film, c'était un peu de laisser le calme, etc. Voilà, donc j'ai trouvé ça très beau. Pareil, la fin était surprenante. Le fait qu'en fait, deux personnes qui sont faites pour être ensemble, finalement, ne restent pas ensemble et passent leur vie chacun de leur côté. J'ai trouvé ça vraiment beau, parce que ça montre que finalement, on est... Enfin, je veux dire, le destin ne fait pas forcément bien les choses, ou parfois on n'est pas obligé de le suivre, etc. Et je crois que c'était quand même un beau message, super, super joli, etc. J'ai adoré, voilà.
Alors là, c'est vrai qu'on parlait des nominations. Golden Globe, il y en a 5, il y en avait 5. Meilleur film, enfin, il y en a toujours d'ailleurs, ils les ont pas enlevés. Film dramatique, réel, scénario, actrice et film, en langue étrangère évidemment. Oui. Et Oscar meilleur film et meilleur scénario original. Mais en même temps, les Oscars, j'ai l'impression qu'ils ont mis 154 films dans la catégorie meilleur film cette année. Il y en a 10 hein, au moins, je crois, au moins. Donc c'est assez dingue, mais bon, le fait est qu'on ne va pas nominer n'importe quel film, évidemment, dans cette catégorie-là. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que Past Life, on en avait déjà parlé dans le numéro précédent, mais c'est bien aussi de retravailler là-dessus et puis de mettre un maximum de personnes devant, que ce soit même maintenant dans sa deuxième carrière, en tout cas. Merci.
Monsieur, je comprends pas.
Ça se route aux yeux, en effet.
Mais je peux pas être calé.
Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Kuntz, vous le pouvez tout à fait.
Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour 2 semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux qui n'ont nulle part où aller pour les vacances. Ils sont consignés.
Monsieur Hanam.
Bonsoir, Marie.
Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait?
Tu sais qu'il a fait ses études ici?
Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Oh. Moi qui croyais que tous les nazis étaient cachés en Argentine.
La ferme, Tully. Vous venez de décrocher une retenue, jeune homme.
Être ici avec vous, c'est déjà être en retenue pour l'éternité.
Espèce de petit con, je vous rajoute une heure de colle. Vous croyez que j'ai envie de jouer les babysitters avec vous? Non, j'ai prié pour que votre mère réponde au téléphone, ou que votre père débarque en hélicoptère ou en soucoupe volante.
Mon
pour
père est mort.
Alors, autre coup de cœur, Winter Breaks. Donc cette fois-ci, on est en Nouvelle-Angleterre et on va avoir une poignée d'étudiants qui ont l'air un petit peu de faire des choix assez extravagantes, en tout cas pour avoir aperçu 2-3 images de la bande-annonce.
Eh ben, Winter Breaks, pour moi, ça a été vraiment une super surprise et ça a vraiment rattrapé un peu ma fin d'année. J'étais trop contente d'aller le voir. J'ai été allée totalement sur un coup de tête. Enfin, je m'étais dit, pour les fêtes, ça a l'air sympa. Et en fait, c'était vraiment super cool. C'est un film de Noël, bah, pour le coup, hyper touchant. Et j'ai passé tellement un bon moment. Enfin, ça... C'est tout, pour moi, c'est complètement un film réussi parce que enfin, je suis tout de suite rentrée dedans. Les personnages, je les ai trouvés hyper attachants. J'ai adoré l'évolution du film. On s'y attend pas. Enfin, comme la bande-annonce, on s'y attend pas forcément. Enfin, parce qu'on a l'impression qu'ils vont être plusieurs, mais en fait, l'histoire, c'est qu'il y en a qu'un seul qui va finir par se retrouver tout seul dans son université, je crois, avec un prof que tout le monde déteste, et donc c'est un peu sa punition pendant les vacances de Noël. Et j'ai trouvé ça super cool. Aussi, pareil, l'image, j'ai beaucoup aimé, et j'étais hyper surprise par le jeune acteur, c'est son premier rôle je crois, et franchement il était super bon et j'ai hâte de le voir dans d'autres rôles parce qu'il m'a vraiment convaincue et c'était très cool.
Donc c'est un film d'Alexander Payne, t'en avais vu d'autres films de ce cinéaste là? Parce qu'il avait fait The Descendants notamment?
Non, j'en avais jamais vu je crois.
Ok.
Et voilà.
Oui, c'est très bien, merci en tout cas, ça donne très envie de le voir, c'est pour ça que c'est fait les coups de cœur. Dans cette dernière partie, on va parler des avant-premières qu'on a pu voir, qu'on a pu découvrir en salle, et notamment la très attendue La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est un film très expérimental, qui va justement parler de cette maison témoin du nazisme qui était à proximité du camp d'Auschwitz et qui a été tourné avec un dispositif très particulier. C'est Lucas qui va nous en parler cette semaine. On découvre également dans la partie avant-première E-Man, un thriller qui va être très attendu asiatique. Si vous aimez justement ce type de cinéma, ça va, risque excessivement de vous plaire. Et puis juste après, moi je vous retrouve pour un bon plan qui va très probablement cartonner en VOD, un film français de genre qui s'appelle Vermine, et c'est avec ces trois films qu'on finira l'émission cette semaine. C'est parti.
Depuis son passage à Cannes, j'avais très 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 envie de voir ce film par tous les aspects. Déjà l'affiche qui est mystérieuse comme c'est pas possible, les quelques images que j'avais vues qui étaient superbes, et du coup le film qu'il est tout autant pour moi, il est réussi de bout en bout. C'est une expérience qui est filmique, parce que je sais pas si ça se dit filmique, si ça se dit filmique, bah, j'invente le mot filmique, filmec. parce que du coup après la séance on a eu un passage du coup de l'acteur, je sais, oui normalement ça devait être le réalisateur mais ça a été l'acteur, mais du coup j'ai vu un petit bout de ce passage là et en fait le comment le film a été fait, c'est super intéressant parce que l'équipe du film n'était pas du tout sur le plateau, était en bas. enfin en bas du coup c'est dans une maison, donc était une grosse partie était non, une petite partie était en bas dans le sous-sol et l'autre partie était dans des conteneurs très loin, parce que du coup pour expliquer c'est la maison avec ses occupants qui était juste à côté du camp d'Auschwitz. Du coup, donc c'était le chef de nazi du camp d'Auschwitz qui vivait. C'est l'histoire de sa famille dans cette maison-là. Et en fait, Jonathan Glazer a laissé un nombre, a laissé plusieurs caméras dans la
10
a laissé 10 caméras tournées qui tournaient pratiquement en continu et il laissait jouer les acteurs parfois en même temps, si j'ai bien tout compris, parfois en même temps sur le plateau et du coup on a des angles pratiquement toujours fixes. Il y a juste un plan en travelling, mais sinon c'est que des plans fixes qui sont à l'image qui font ressentir que c'était vraiment dur. Il y a une sorte de dureté juste avec ces plans qui sont fixes. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est il y a un éloignement mais en même temps on nous montre tout. C'est ça ce paradoxe qu'en même temps c'est très dur et en même temps le réalisateur prend un regard très éloigné, très presque doux et contemplatif de ce qui se passe et c'est magnifiquement réussi. Et puis les acteurs du coup, et puis Sandra Hüller qui est pareil, qu'on voit un peu partout, Anatomie d'une chute etc, qui est superbe, et donc je recommande. Et puis la musique de Mika Levy que j'adore du coup, qu'avait fait Jackie et qui est une de mes BO favorite. Là c'est des musiques un peu plus promptues mais qui font tout le film.
Et il sort quand celui-là ?
Le 31 janvier.
Est-ce que juste je peux te poser une question ? On en a parlé tout à l'heure du coup. Même dans tout ce que tu as dit, ça me fait beaucoup penser à Canine. Le fait que c'est des occupants dans une maison fermée, éloignée du monde un peu, et des caméras fixes, quasiment pas de mouvement. Est-ce que ça y ressemble ? Est-ce que ça s'apparente ?
Bah du coup, ce que je te disais, moi j'avais pas fait le lien direct parce que Canine m'a pas forcément marqué, mais le lien que je pourrais faire tout de suite, c'est par rapport au père de famille. C'est un peu le père de famille qui décide, même si là il est pas très charismatique, alors qu'on se dirait c'est un dirigeant nazi, il peut incarner la force, surtout du mal. Et là, en fait, par rapport à sa famille, il n'est pas si présent que ça, il n'est pas si important, entre guillemets, que l'était le père dans Canine, du coup. Mais sinon, la famille, l'enfermement est assez présent, même s'il y a quelques scènes où ils sont en dehors, par exemple dans la rivière, quand ils font du kayak, etc. Mais sinon, il y a cet enfermement qui est vraiment hyper, hyper présent et assez quand même oppressant. Oui, du coup, c'était une avant-première surprise avec l'AFCAE. Le principe, c'est un film une séance qui nous est proposée. On ne sait pas du tout ce qu'on va voir, sauf quand on cherche.
Il a triché. Le mec a triché.
J'avais trouvé le film, mais comme je ne regarde rien à part quand c'est forcé dans les films, je regarde pas les bandes annonces. Du coup, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir quand même. À quoi j'allais avoir assisté. Et c'était très 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 cool. Déjà l'effet de la séance quand on sait pas ce qu'on va voir, c'est d'autant plus intéressant de se plonger dedans. Et puis le film en lui-même est absolument super, je trouve. C'était touchant de bout en bout, c'était vraiment bien fait, c'était écrit assez intelligemment et tout, donc c'était une très très bonne surprise pour moi.
Ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'était très agréable de voir un film surprise comme ça. Je sais que je retournerai faire cette expérience. Et pareil, j'ai beaucoup aimé le scénario. Pour ceux qui aiment bien les trucs d'investigation, etc., je vous le conseille.
Oh, c'est quoi tout ça, lui, là ?
Quoi, ça t'intéresse, les bestioles ?
Oh, mais ça m'intéresse à mort !
Fais gaffe quand même, hein.
T'inquiète, je te dis, moi, je suis un pro. Je te ramène à la maison.
Let's go.
Comment t'as fait pour pécho ça?
Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre.
Non, mais tu sais qu'il leur parle.
Bah, sérieux.
Je te promets, meuf.
T'es où? Tu te caches, t'es où? Tu te fous de ma gueule.
Attention, claustrophobe, et potentiellement à tous ceux qui sont arachnophobes. Vermine vous propose un film très malin, très bien écrit, qui se raconte dans une tour d'habitation de la banlieue parisienne. Alors, on est dans la banlieue de Saint-Ouen, visiblement, puisqu'il y a certains maillots pour les fans de foot qui rappellent le mythique club du Red Star. Et il raconte l'histoire de Caleb, ce film-là, qui est en conflit avec son meilleur ami, sa sœur, puisqu'elle veut quitter la cité dans laquelle ils sont après avoir perdu leur mère. Donc ça, c'est que des éléments de scénario qui nous sont révélés après. Il est passionné d'animaux exotiques, et ça c'est quelque chose qui va être déterminant, puisqu'il fait l'acquisition d'une araignée venimeuse qui va échapper à sa vigilance et propager son espèce dans tout l'immeuble. Donc on va vivre en fait quelques heures de confinement forcé. Les habitants doivent faire face à des araignées dont la taille va s'accroître.
Il a fait un malaise, c'est ça?
Sa gueule, c'était pas un malaise, ça.
Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non?
Il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue.
Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors?
L'idée, c'est ensuite tout simplement de comprendre que vermine, évidemment, le titre va être à double sens, puisqu'on va parler évidemment de cette espèce qui se propage, mais c'est également l'estime personnelle que se portent les habitants de ces quartiers qui sont parfois évidemment vus comme marginalisés. On sait le traitement médiatique qu'il y a eu depuis plus de 30 ans sur ces quartiers-là. Et évidemment, ce quartier, via le territoire de Caleb, on voit que c'est également une question d'estime personnelle qui est très importante. Caleb, on le sait, il reproche à sa sœur, on va le voir dans le film très rapidement, de vouloir quitter cette zone qui n'est pas mise en valeur, qui n'est pas valorisée, qui est un territoire souvent vu par le mauvais prisme de la lunette. Et lui, il va essayer de défendre justement. Il y a une scène très importante où on va voir qu'il reproche à des jeunes de dégrader, de casser des poubelles, de les cramer. Et il va faire cette leçon-là un petit peu pour rappeler qu'en tout cas, beaucoup de ses habitants se dévaluent, ne s'estiment pas parce qu'ils vivent dans un quartier qu'ils eux-mêmes n'estiment pas. Donc ce double sens, moi j'ai trouvé vraiment très pertinent, parce qu'évidemment il y a le cinéma de genre, mais il y a également un message qui est très important derrière. Et en bon film de série B, puisqu'on les appelait comme ça, on va continuer en tout cas à les appeler comme ça, en tout cas en bon film de genre, il va y avoir ce message à double tour qui est très important, qui va rapprocher en fait Vermine de films de Lajli, hein, les tout derniers qui sont sortis en salle, et qui a vraiment une vraie profondeur là-dessus. Les personnages sont très bien écrits, on a beaucoup de lignes de dialogue qui sont épargnées par des petits détails du scénario. Ça peut être une carte postale, ça peut être justement un décor bien choisi et une mise en scène particulièrement bien montée. Et puis j'insisterai aussi sur la direction d'acteur, qui est souvent quelque chose qui est un peu la portion congrue dans les films de genre. Et quand on a vraiment des comédiens impliqués, on va vraiment voir une vraie plus-value dans ces films-là. Alors évidemment, il y a Théo Christine qui a incarné Joey Starr dans le biopic d'Audrey Strugo, Suprême, et puis l'indispensable Finnegan Oldfield, qui est dans beaucoup de films, qu'on a vu dans Coupé par exemple, de Michel Hazanavicius. Donc un casting très solide, et surtout, au-delà des noms, des comédiens qui sont complètement dans le rôle et qui portent vraiment le projet. Moi, j'ai trouvé ce film vraiment brillant. Alors évidemment, si vous avez des petites phobies par rapport à tout cela, il faut peut-être y aller avec des pincettes, mais en tout cas, dans les sorties VOD, il est vraiment à surveiller, ce film-là.
Chaud.
Faut vraiment qu'on se casse, là.
Graffiti Cinéma, c'est terminé avec cette évocation du film de Sébastien Vanitschek, Vermine, qui est sorti et qui est très important, donc on vous évoquait. On va remercier toute la brigade cinéphile une nouvelle fois et toutes les équipes du cinéma Les Carmes pour leur accueil. Et on vous donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine, pour une nouvelle thématique qui va nous occuper pendant tout le mois de février, le catch au cinéma. C'est un grand écart, mais en même temps, ces sportifs sont habitués à en faire pas mal. Vous découvrirez la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, salut.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça?
Hein?